Mercredi 21 septembre 2022, vous écoutez le studio Kalangou, il est 17h. Le journal en français, c'est tout de suite avec Rafika Taher. À présent, les titres. Le monde célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix. Dans la région d'Agadez, des anciens acteurs de l'insécurité deviennent les artisans de la paix. Le président de la République, Bazoum Mohamed, qui séjourne à New York, a tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies un discours sur la transformation de l'éducation. Il entend améliorer l'accès, la qualité et l'offre éducative au Niger. Les détails dans ce journal. Dans la partie magazine de cette édition, nous parlerons de la différenciation qui existe de l'éducation de la jeune fille et du jeune garçon dans la société africaine. Bonsoir messieurs, dames et bienvenue. Le 21 septembre de chaque année est dédié à la Journée internationale de la paix dans le monde, une journée consacrée au renforcement et à la promotion des idéaux de paix. Dans la région d'Agadez, ancien foyer de l'insécurité, toutes les dispositions sont prises pour cultiver et pérenniser la valeur et les idéaux de la paix, explique Ahmed Ougaya, un ancien acteur de l'insécurité, devenu aujourd'hui artisan de la paix dans l'Aïr. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Chaque commune, on a mis en place des comités de paix, des caravanes de paix qu'on appelle Taglam dal Kher, qu'on a mis en place au niveau du conseil régional. Déjà, les gens ont pris les choses en main. C'est impossible qu'un étranger arrive avec une mauvaise intention, que ce soit dans n'importe quelle commune de l'Aïr. Voilà comment on a résolvé ça. On a amené une cohésion encore entre les communautés, de sorte que toutes les communautés s'informent. Tu sais, les terroristes, ils ont profité d'abord en divisant les communautés, pour prendre notre communauté, les armer, les aider. Mais nous, on a refusé ça. C'est nos propres moyens, c'est de la volonté. C'est pour cela, nous, au niveau de la région d'Agadez, nous avons décidé de la mise en place de ce système dont je t'ai parlé. On a mis des comités de caravanes qui rayonnent, qui suivent les populations, sensibilisent, rentrent partout pour dire aux gens d'éviter, de faire attention. Toute personne qui vient chez vous, vous montrer qu'elle est intégriste, dénoncez-la. L'État saura comment les gérer.
Comme annoncé dans les titres, la session de l'Assemblée générale des Nations unies se tient à New York du 20 au 26 septembre 2022. En marge de la rencontre s'est tenu le sommet de la transformation sur la transformation de l'éducation. À cette occasion, le président de la République, Bazoum Mohamed, a annoncé des actions envisagées pour améliorer l'accès, la qualité et l'offre éducative dans le pays. Tout cela en vue de la transformation de l'école nigérienne. Suivez un extrait du discours de Bazoum Mohamed aux États-Unis.
Pour ce qui concerne la République du Niger, les principales actions promues portent sur l'épanouissement des écoles inclusives basées sur des curricula qui tiennent compte des attentes des populations et de l'adéquation du système éducatif avec les conditions de l'économie du pays. Et le programme que nous sommes en train de mettre en œuvre vise en effet à faire en sorte que nous construisions 36 000 salles de classe sur 3 années pour créer les conditions d'un environnement propice à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Le projet de la revalorisation de la fonction de l'enseignant permettra à son tour de mettre l'accent sur la fonction de l'enseignant en améliorant la formation initiale et le renforcement du dispositif d'encadrement et de la formation continue. L'objectif ultime étant de former des enseignants de qualité jouissant d'un statut revalorisé en lui assurant progressivement le recrutement à la fonction publique. Cette option permettra de stabiliser les effectifs de contractuels.
C'était des propos recueillis par nos confrères de Télé Sahel. La dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation s'est réunie le dimanche 18 septembre pour faire le bilan du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 15 février 2022. Selon le secrétaire général du syndicat progressiste des enseignants du Niger, à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, aucun des 19 points signés n'a été pris en compte par le gouvernement. Maman Salia Ibrahim est au micro du studio Kalangou.
Pour le moment, c'est un bilan mitigé. Nous avons vu que nos points que nous avons signés avec le gouvernement, plus de 10 mois après, ces points n'ont pas trouvé de solution malgré La bonne foi des syndicats d'enseignants, vous avez vu, depuis la signature du protocole le 15 février jusqu'à la fin de l'année, nous n'avons engagé aucun mouvement. Nous sommes à la veille de la nouvelle rentrée 2022-2023. Après ce constat, nous avons pris la décision de saisir le gouvernement par rapport à sa responsabilité quant à la mise en œuvre, parce que les syndicats vont être intransigeants par rapport à la mise en œuvre des points d'accord. Nous allons observer certes la rentrée, mais le bon déroulement de la nouvelle année en cours dépendra de la mise en œuvre de ces points d'accord.
Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS a levé lundi son mot d'ordre de grève projeté pour les 20, 21 et 22 septembre. C'est la conséquence d'un protocole d'accord signé avec le comité interministériel chargé des négociations. Moudaha Awache, deuxième secrétaire général adjoint du SUSAS, au micro de Sakina Gazibo.
Le mot d'ordre a été levé suite à un certain nombre de négociations. Tout ce qui est lié aux frais de scolarité de nos étudiants qui sont à l'étranger et ici au Niger, et concernant aussi les boursiers appui, le ministre des Finances était là. Donc tous les engagements c'était devant lui. On pense que les problèmes vont trouver leur solution et tout ça a été cadré. Et nous appelons cadrer un thème par rapport à chaque point. Si vous prenez le point lié aux frais de formation, les boursiers appui, la promesse qui a été faite d'ici fin novembre, il y aura un paiement de 651 millions. Maintenant, pour le point par rapport à l'harmonisation de la grille. Et l'accord que nous avons eu avec eux, c'est de finir le travail et de remettre ça au grand comité qui est en train de travailler au niveau de la primature pour qu'il soit pris en compte là-bas. Maintenant, pour le recrutement, la promesse qui a été faite d'ici fin 2022, il y aura un recrutement direct à la fonction publique. Et pour ce qui est des contractuels, il y aura 700 qui vont passer directement sans concours à la fonction publique.
Le village de Tungagumbi, situé dans la commune de Tanda, département de Gaya, sera déguerpi dans les jours à venir selon la décision prise par les autorités départementales. Situé près du fleuve Niger, la grande partie du village, composée de 187 ménages, est inondée par les eaux du fleuve et le risque d'envahissement du village plane. Assimo Arbashi, préfet de Gaya, au micro de Fadel Allo.
Vous savez bien qu'il y a des consignes qui ont été données dans le cadre de la protection civile de déguerpir des ménages ou des personnes qui sont à risque et d'éviter également la traversée des eaux à tout moment. Nous avons visité ce village et le constat est que les gens sont dans un risque permanent et qu'il faut absolument déguerpir ce village puisque nous disons qu'ils sont même dans le fleuve. Il y a eu la même épreuve en 2019 et voilà qu'elle se répète. Et nous sommes encore en pleine saison de pluie. Et nous souhaitons tout simplement que le risque n'arrive pas. Mais ce qui est sûr, la décision de le déguerpir est déjà prise et on va l'exécuter. Il ne reste que des modalités pratiques maintenant pour le nouveau site. C'est un village où les enfants sont plus nombreux d'ailleurs que les habitants. Donc nous ne pouvons pas laisser exposer leur vie. Nous avons 174 ménages que nous venons de voir sur la liste du village. Il y a d'autres encore qui ne sont pas recensés.
En fin de semaine dernière, une rencontre a eu lieu autour du maire de Birnin-Kazoé dans le département de Gouré. La rencontre a regroupé les représentants des agriculteurs et ceux des éleveurs. Pour le maire, il s'agit d'attirer l'attention de tout un chacun sur sa responsabilité à cultiver la paix, la cohésion sociale au début des récoltes agricoles. Boukar Djibrilou, maire de Birnin-Kazoé, au micro d'Ibrahim Manzo.
Les agriculteurs, les éleveurs, c'est une même communauté. Les producteurs eux-mêmes font de l'élevage. Les éleveurs sont aussi des agriculteurs. Dieu a fait que la campagne est promoteuse. Dieu merci. Notre souhait, c'est de voir cette campagne finir avec les espoirs escomptés. Si, par exemple, des dégâts sont faits dans un champ, il ne faut pas se faire justice soi-même. La loi a défini les voies de recours. Il y a le chef de village. C'est une des voies de recours traditionnelles. Des couleurs de passage ont été prévus. C'est le passage tracé pour les éleveurs avec leur bétail. Donc, dès qu'ils empruntent ces couloirs, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est une obligation pour eux de suivre ces couloirs. Et emprunter le couloir de passage n'implique pas le passage dans les champs. Et nous, en tant qu'autorité communale, plaise à Dieu, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment vous accompagner sur ces questions afin de protéger tout le monde.
Puissance du droit des puissants, les traités européens et eurafricains, c'est le thème cette année de la 13e édition de la FADA du Germès, le groupe d'études et de recherche sur la migration, espace et société. Une conférence débat a été organisée hier mardi 20 septembre à l'université de Niamey. Docteur Ademo Abdou Hassan, conférencier au micro de Ali Munkaila Hosseini.
La discussion a porté sur la question de l'Eurafrique, c'est-à-dire la volonté d'unir le continent européen et le continent africain à travers l'Afrique subsaharienne et de démontrer en fait la continuité du point de vue juridique qu'il y a eu entre les différents traités européens puis les traités eurafricains. Donc on a essayé en fait de discuter sur ces accords et revenir sur le fait qu'au fur et à mesure de l'évolution du temps et des nouvelles conventions qui sont adoptées, on essaie toujours de corriger le passé pour essayer d'avoir une forme d'équilibre dans les relations.
Dans le cadre de suivi des activités financées par la Banque mondiale au Niger, une équipe de cette institution s'est rendue dans le département de Goudoumaria, région de Diffa. Hals Kator, le représentant de la Banque mondiale au Niger, explique les domaines d'intervention de son institution au micro de Mahamadou Madou.
Nous sommes ici à la cuvette Rerewa. J'étais vraiment impressionné par ce que j'ai vu. D'un côté, j'ai vu les risques d'une avance causée par le changement climatique. J'ai vu qu'il y a ici des moyens pour les populations pour faire de l'agriculture dans la cuvette. Et je suis très content de voir qu'il existe des méthodes qu'on applique pour piller les dunes et arrêter leur avancement. Et en même temps, du travail qui va se démarrer après pour améliorer les cultures agricoles qui se font sur le terrain ici, ayant des emplois pour la communauté et aussi avec des structures qui vont bénéficier pas seulement aux propriétaires des terrains ici dans la cuvette, mais pour la communauté dans son entièreté. J'ai vu le démarrage, il reste beaucoup de travail à faire, c'est extrêmement important. Certainement, je vais essayer de revenir dans 12 mois pour voir les avancées.
Dans la société nigérienne, certaines pesanteurs socioculturelles ou idéologiques impactent l'éducation des enfants. Ainsi, par exemple, l'éducation des garçons diffère de celle de la jeune fille. Selon les spécialistes, cette différenciation de l'éducation est à éviter parce qu'elle crée un climat de frustration entre les enfants des deux sexes. Suivant le reportage de Habiba Ahmed.
Historiquement, dans nos sociétés africaines, les parents ont tendance à privilégier plus l'éducation des garçons au détriment des jeunes filles. Mais cette tendance prend une autre tournure de nos jours, estiment ces chefs de famille.
Dans l'Afrique traditionnelle, l'éducation des garçons elle est nettement différente. Au contraire, chez la fille, il est vrai, il y a une éducation spécifique qu'on lui donne. Par exemple, quand vous prenez une fille et pour lui enseigner le système de menstrue, on l'envoie chez une vieille tante comme ça. Mais de nos jours, c'est des valeurs qui tendent à disparaître. Aujourd'hui, très peu de femmes occupent des postes de haut niveau. Mais pour pouvoir les encourager, on leur montre des exemples de femmes qui ont occupé des hautes fonctions à travers le monde. De nos jours, les filles ont pratiquement libre cours à faire leur choix.
Cependant, des jeunes que nous avons rencontrés ont des avis partagés sur la manière d'éduquer les enfants au sein de familles.
Pour moi, c'est la logique des choses. Et dans notre société, les garçons doivent avoir la place que leur donne notre religion.
Moi, je pense que la discrimination faite aux filles dans un foyer, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, n'est pas en réalité une discrimination à proprement parler. Parce que en général, surtout dans les traditions, l'homme c'est lui qui gère la famille, c'est lui le chef. Donc souvent, le fait qu'on implique les garçons dans cette prise de décision, c'est parce que demain, ils sont appelés à jouer ce rôle-là.
Moi, je suis contre le fait que les garçons soient privilégiés beaucoup plus que les filles dans une famille. Pour moi, les mêmes idéaux doivent être confiés à tous les garçons et à toutes les filles dans une même famille. Et les filles doivent avoir la même liberté que les garçons. Et souvent, c'est nos petits frères. On leur confie tout.
Par ailleurs, lui, le sociologue, souligne qu'il est capital que les parents accordent une importance capitale à la jeune fille dans son éducation. Et c'est là, enfin, qu'elle puisse pleinement jouer son rôle dans son foyer et le développement du pays. Issa Alou Aye.
Mais je pense que les parents ont la lourde responsabilité d'échanger, de communiquer avec la jeune fille, quel que soit son âge. Parce que ça va lui permettre de comprendre très vite les choses et de comprendre le pourquoi on la maintient à la maison. On la maintient le plus souvent dans la compréhension de la communauté, de notre éducation sociale, parce que la femme doit être protégée. Lorsque les valeurs disparaissent au niveau d'une femme, c'est toute la communauté qui en pâtisse. Mais si c'est l'homme, on peut le rattraper. Mais la femme, difficilement.
Il est nécessaire que les garçons et les filles soient traités de la même manière par les parents, étant donné que chacun d'eux a un rôle important à jouer dans la communauté.
La fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place dans un instant à Habiba Ahmed pour la présentation du journal en tamashek. À 18h15, vous écouterez le forum sur l'ensemencement des nuages. Quel impact pour l'évolution de la campagne agro-sylvopastorale 2022 au Niger? Et c'est avec Mokhtar Hamadou.